voici Gravel dans le retour.
4h moins 10 à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Ça retient l'attention, plusieurs textos à ce sujet. Des polices qui se promènent sur le bord du fleuve à Bois-Châtel avec hélicoptère, deux bateaux de garde côtière. On essaie d'aller aux nouvelles, puis on n'a pas de détails ou d'infos supplémentaires. Si vous en avez, gênez-vous pas. 418-971-1021. Vous êtes déjà quelques-uns à nous signaler la situation. Et dans le reste de l'heure de pointe, Audrey, ça se passe comment?
Ça commence à congestionner, là. Capitale, direction Est, entre Henri IV et Laurentienne, c'est particulièrement difficile. Direction Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne que ça se passe. Il y a un ralentissement à prévoir sur Charest Est, entre Henri IV et Robert Bourassa. L'entrée du pont Pierre-Laporte, direction Sud, c'est au ralenti aussi. Et la 20, direction Ouest, entre Chemin des Îles et Taniata. Quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021 par texto.
On va jaser d'actualité et les sujets intéressants à discuter ne manquent pas. François Bourque est avec nous en studio. Salut François.
Salut.
Comment ça va?
Hey, content de vous retrouver. Ouais, ça va bien.
Jaune, t'as ça en vinyle de Jean-Pierre Ferland?
En fait, si je veux être très, très honnête, c'est pas moi qui l'avais, c'est ma blonde.
OK.
Mais là, comme on a...
C'est considéré patrimoine, texte à vos deux.
Amalgamé les deux bibliothèques de vinyle, alors on a quelques copies. On a une fois cinq de vinyle aussi, deux fois plutôt qu'une, parce que ma blonde l'avait aussi. c'était un des albums. Moi, j'ai toujours écouté du Ferland depuis tout petit. Je dirais pas que c'était mon artiste préféré, mais il a fait partie de mon paysage musical depuis toujours.
J'ai fait entendre des extraits de Jaune parce que j'ai l'impression que dans la nouvelle génération, on retient plus le personnage de Jean-Pierre Ferland. Puis le
tombeur de ses dents.
Le gars qui fait des chansons d'amour, mais je veux dire, autant au niveau musical qu'au niveau des textes, c'est un gars qui a exploré puis qui a fait partie de l'explosion du Québec au niveau culturel du début des années 70.
Oui, moi, je ne suis pas un musicologue, mais hier, évidemment, comme à peu près tout le monde, on est retourné visiter, revisiter
les vieux disques.
La semaine prochaine, le top 15 Canada, c'est juste du Jean-Pierre Ferland et du Cowboy fringant. Attachez-vous.
Oui, c'est ce qu'on a fait en fin de semaine. Mais c'est ça, on a l'impression, puis là, c'est probablement que des spécialistes de la musique vont me contredire, mais en réécoutant Jaune, j'avais l'impression que ça annonçait déjà les groupes qu'on a écoutés dans les années 70, les harmoniums, le rock plus progressif. S'éloignait de la chanson traditionnelle française, puis ça annonçait ça déjà, il me semble, le Jaune. Mais moi, ma chanson préférée, je dirais, de Ferland, n'est pas sur Jaune. Et sur un album dont je ne connaissais même pas le titre, ça s'appelle « Les Vierges du Québec », je pense,
oui.
En 74. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Moi, je pense que c'est probablement ma chanson préférée de Ferland. Elle a été reprise par Éric Lapointe, par d'autres aussi, mais moi, c'est probablement ma préférée, celle-là.
Je pense que je me range de ton côté.
Hein? Ah oui, Ah non, puis le texte... Le texte est assez fort aussi. Hein. J'ai pas envie de mourir avant d'être mort. Je veux pas descendre avant d'être arrivé au bout. Tu sais, je trouve qu'il y a quelque chose un plaidoyer pour la vie là-dedans qui est intéressant. Puis qu'on retrouvait aussi d'une certaine mesure dans le dernier album des Cowboys Fringants qu'on a aussi beaucoup écouté en fin de semaine. Hein.
Je trouve que c'est son ordinaire à lui, ça. Qu'est-ce que ça peut bien faire de Jean-Pierre Ferland? T'es en train de le faire écouter aux auditeurs, là.
Qu'est-ce que ça peut m'être faire? Que je grimpe les murs, que je vive dans les airs.
Puis ça fait partie des débats éternels. Je comprends que Jaune, c'est l'album qu'on retient. Mais les Vierges du Québec en 1973, là, si vous voulez rallonger votre écoute de Jean-Pierre Ferland, c'est un autre incontournable.
Trop fort, j'ai pas envie de mourir avant d'être mort.
Et voilà. Oh! Hey François, on va jaser d'actualité un peu. Demain, 16h, on offre aux auditeurs une table spéciale du podcast de Gravel dans le retour. Audrey nous a organisé une belle soirée retrouvaille avec Agnès Maltais, Gérard Deltel et Sam Hamad, qui ont représenté la région de Québec pendant longtemps. Puis, il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées intéressantes qui sont sorties de leur époque à eux autres, tu sais, concernant ce qu'on voit présentement, là, les chicanes des paliers de gouvernement avec les municipalités, comment un ministre pouvait procéder pour avoir de l'influence auprès de son chef et auprès du maire pour faire avancer des dossiers de la région. Qu'est-ce qui manque présentement pour faire en sorte que le climat de l'époque, on n'est pas capable de le vivre en 2024? Sais-tu que les politiciens sont plus faibles dans la région? Sais-tu que le maire Marchand a tellement parti off avec le gouvernement que déjà, il y a des trucs irréconciliables avec Mme Guilbeault? Comment tu vois ça, toi, toute cette situation-là?
Bien, en fait, si on nomme dans la même phrase Agnès Maltais puis Sam Ahmad, moi pour moi, ça évoque... Bien, évidemment, c'était deux adversaires politiques, mm-hmm. mais on sait qu'il y a toujours eu beaucoup de respect entre tous les deux. Et pour moi, ça réfère à une époque où on ne se posait pas la question est-ce qu'il y a un leadership régional dans la région de Québec? Je pense qu'il y avait
une espèce de cohésion.
Ça se voyait chez un et chez l'autre. Puis c'est quoi le leadership? Bien, c'est la combinaison de beaucoup de choses. C'est la force, la personnalité des personnes, mais c'est aussi les antennes que tu as dans ton propre parti, d'abord, ta capacité à influencer d'abord tes collègues, des collègues du Conseil des ministres, avant d'être capable d'influencer les autres gouvernements. Je pense que Sam Ahmad avait ces réseaux-là, Agnès Maltais aussi. Mm-hmm. On le sent certainement moins dans le gouvernement actuel. Donc, ça évoque une espèce d'âge d'or aussi pour Québec, à certains égards, là, cette période-là. Le Sam Ahmad sous Jean Charest, aime ou aime pas les libéraux. Je pense que c'était une époque où il y avait une cohésion avec M. Labeaume. Ensuite, oui. ça a bien fonctionné. Là. Il y avait le courant passé, même si Labeaume n'était pas de la même famille
couleurs,
politique
non
plus. Il n'était pas un libéral, M. Labeaume. Attends.
Avant même que le podcast commence, ce qui s'est un peu dit, c'est que ces gens-là n'étaient pas en politique pour eux. Il était en politique pour servir. Puis ça m'a tellement joué dans la tête, François, à savoir, les gens qui se présentent en politique actuellement, est-ce que c'est pour leur job assuré? Est-ce que c'est pour leur standing? Est-ce que c'est pour leur nom? Est-ce qu'on va en politique actuellement pour les bonnes raisons ou pour porter un projet qui est peut-être un peu déconnecté de ce qu'il y a sur le plancher des vaches? Puis j'ai toujours pas trouvé la réponse à ma question, mais à voir comment ça se déchire actuellement sur la place publique puis à quel point c'est rendu difficile de trouver quelque chose de porteur puis à l'amener plus loin, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à avoir là-dessus aussi.
Ah ouais, c'est quoi des grands projets de société ou des grands projets de région? Bon, est-ce que c'était le tramway? Est-ce que c'était des liens? Je sais pas, mais c'est certain que on a l'impression que la région est pas mobilisée derrière ces idées-là en ce moment est plutôt elle est plutôt au contraire très, très divisée. Là, on verra comment tout ça va tourner dans quelques mois, au mois de juin notamment. Mais quand on parle des tensions, est-ce que, pour répondre à ta question, Véro, est-ce que M. Marchand a été trop raide, trop vite avec le gouvernement? Je ne sais pas, mais moi, je l'écoutais la semaine dernière quand il nous a dit qu'il avait perdu confiance dans Mme Guilbeault et tout ça. Il dit c'est le retour à la politique des années 60 et au temps d'une paix. En fait, moi, quand j'ai entendu M. Marchand dire ça, j'ai plutôt l'impression que c'est le retour au temps d'une guerre parce que dans le cas de monsieur, avec la bombe, c'était la guerre avec le gouvernement de la CAQ et Mme Guilbeault.
Oui.
Quand M. Marchand est arrivé, au contraire, avec une attitude beaucoup plus conciliante. Il était au point, d'ailleurs, que l'opposition lui en faisait reproche. L'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec lui en faisait
reproche.
C'est vrai,
au début, ben oui.
Donc, il a essayé une autre approche avec le gouvernement, puis il a fini par perdre patience. Là. Alors, c'est arrivé la semaine dernière. Cela dit, je veux pas banaliser ces tensions-là, ces discussions-là, mais tension entre les villes et les gouvernements.
Oui.
Moi, il me semble, j'ai vu ça de tout temps. Ça fait des décennies et plus que les municipalités s'adressent au gouvernement pour demander plus de pouvoir, plus de sources de revenus, etc. Donc, ça fait partie des tensions normales, il me semble, en tout cas, entre un gouvernement et les villes. Donc, aujourd'hui, ça porte sur le financement du transport collectif et des sociétés de transport. Bon, aujourd'hui, ça porte là-dessus. Hier, c'était sur l'habitation, ça a été sur l'itinérance, mm-hmm. ça va être sur la façon de faire face au changement climatique. Donc, il y a toujours eu ces revendications, ces tensions-là. Et en bout de ligne, dans le fond, la vraie question à se poser, c'est pas qui va payer pour ça, parce que c'est toujours la même personne.
Oui, ça part du même portefeuille.
La seule question à se poser, c'est comment on veut payer ça, parce que les citoyens tiennent à ces services. On n'entend jamais les citoyens dire « laissez tomber tel type de service, laissez tomber tel... » On veut garder ça comme citoyen. Donc, comme les coûts montent, ça veut dire qu'il faut payer, alors c'est comment on va le payer. Est-ce qu'on veut le payer directement à travers des tarifications, l'utilisateur payeur ou pollueur payeur, ça? Est-ce qu'on le paye à travers nos taxes municipales, à travers l'impôt provincial ou l'impôt fédéral? Mais ultimement, c'est toujours la même personne qui paye. Il y a comme un... Je comprends là, qu'il y a des juridictions pour chacun, mais je ne suis pas sûr que les citoyens soient à ce point sensibles à l'importance de qui va payer ou pas, si on veut le service, puis organisez-vous donc pour que ça fonctionne.
Ouais. Mais peut-être que la priorité aussi, c'est de se dire, faut trouver nos projets à Québec puis les faire avancer. Puis Sam Hamad, moi, en tout cas, m'a donné un cours 101 de comment ça pouvait marcher dans le temps. Puis je ne sais pas si c'était pour se donner le beau rôle rétroactivement, mais ce que Sam Hamad disait, c'est que...
Ça pourrait lui ressembler un petit peu, ça, quand même, pour le connaître.
Il allait s'asseoir avec le maire, puis on établissait c'était quoi les priorités. Puis Sam Hamad disait, ben après ça, nous autres, le mandat qu'on avait, c'était d'aller voir nos chefs, que ce soit Jean Charest ou Philippe Couillard, puis de faire passer ces choses-là dans le discours du budget. Parce que si c'est écrit dans le discours du budget, ça a l'air que c'est pas mal plus important que des promesses en l'air.
Il a assez raison quand il relate la chose de cette façon-là. Il oublie peut-être quelques épisodes. Il y a eu deux Sam Hamad, hein, faut se souvenir. Mais Sam Hamad a été deux fois le ministre de la Région de Québec. Oui. La première fois, ça n'a pas fonctionné. L'administration de la bombe, c'était même la guerre. Puis moi, je me souviens de la bombe qui s'arrachait les cheveux. Ben, disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis il voulait
parler au chef direct.
Il souhaitait le remplacer. Puis finalement, bon, quelques années plus tard, M. Hamad est revenu avec, je sais pas si on appelle ça plus d'humilité ou plus
d'expérience,
d'habileté,
peut-être.
Plus d'expérience, plus de métier. Enfin, et bref, le Sam Hamad 2 avec M. Labombe, là, ça a vraiment fonctionné. C'est mais vrai. Ça coïncidait aussi avec une époque où Jean Charest était là. Jean Charest qui aimait la capitale, alors que dans le cas de M. Legault, il y a plus de doutes sur son attachement ou pas au rôle de capitale pour Québec.
Mais on se rappelait tantôt que quand la DQ est devenue la CAQ, à un certain moment donné, si tu voulais voir Gérard Deltel, sa photo de tout le monde, là, quand François Legault est arrivé, il fallait que tu mettes ton écran widescreen parce qu'il l'avait placé loin d'un côté.
Il a commencé
là.
À côté, puis là, la photo, 6 mois plus tard, il est un petit peu plus loin, puis à un moment donné, il dépassait du cadre de la pancarte.
Nous, on avait vu la place de la capitale au sein de la CAQ dans ces images-là.
Oui, effectivement, puis il y a un beau symbole dans cette image-là. Parce que dans les faits, on le voit aussi, la CAQ, qui au départ est une coalition, le mot le dit, ben, formé des gens de la DQ qui étaient probablement un petit peu plus à droite au point de vue économique.
Oh, oui,
ce groupe-là a fini par être avalé et par être dissous complètement dans ce qui est devenu la CAQ aujourd'hui. Donc, le discours économique de droite, ben, il n'est pas incarné à la CAQ maintenant. Non. C'est plutôt du côté de M. Duhaime qu'on
CAQ,
trouve. Ouais. C'est moins, de moins en moins la coalition qu'elle a été au départ.
Tantôt, Véro soulevait une question intéressante, à savoir les gens qui se présentent en politique, est-ce qu'ils se présentent pour les bonnes raisons? Il y avait une place pour les gens qui avaient des idéaux, puis les gens qui rêvaient d'une politique différente. On appelait ça Québec solidaire. Bon, bien, à cette heure, ces gens-là qui rêvent d'une politique différente, ils restent même pas 5 mois au sein de Québec solidaire. Mmh. Ça veut-tu dire que déjà, le parti est rendu un parti parmi tant d'autres, puis c'est-tu... pas le début de la fin, mais Québec solidaire, c'était considéré comme un idéal, comme quelque chose de différent. Et là, ben, c'est juste un musicien parmi tant d'autres, tiens, pour reprendre Harmonium.
Oui, ben ça fait un peu partie de, je pense, une espèce de crise de croissance, probablement, dans le cas de Québec solidaire. Mais moi, je pense que pour ce qui est de la démission spécifique d'Émilie Lessard-Terrien, je pense qu'il y a... Ça, on peut trouver plusieurs explications, une explication personnelle sans doute. J'entendais des commentaires de collègues plutôt aujourd'hui qui disaient qu'elle était déjà fatiguée au moment où elle est arrivée, où elle a accepté ce nouveau rôle-là, élever deux enfants, puis la course qui n'a pas été facile aussi. Donc déjà en partant, elle était probablement au plan personnel un peu fatiguée. Une explication géographique aussi, elle vient de l'Abitibi, faire la navette avec le...
Mais elle a été députée, elle le savait,
Elle le savait, mais c'est plus difficile quand t'as pas les moyens, parce que Québec solidaire a pas les moyens financiers d'autres grands partis comme députés. Donc, je pense qu'elle se plaignait un petit peu de pas avoir les moyens d'être capable de faire les tournées et tout ça. Donc, la géographie ne l'a pas aidée. La politique, le jeu politique non plus. Quand elle a été choisie, c'était avec 50 % des voix dans son propre parti. Ça veut dire que la moitié des gens auraient préféré avoir quelqu'un d'autre. Et il y avait un seul député qui l'avait appuyé. Donc, je ne dis pas que c'est impossible de réconcilier tout ça, mais en partant...
Tu pars d'un contexte particulier.
En partant, c'était pas donné. Mais plus que ça, je pense que c'est surtout une différence idéologique. Moi, Mme Lessard, je la perçois comme une rêveuse, une idéaliste, une militante dans le sens fort du terme.
Mais il n'y avait pas rien de ça à Québec solidaire au début.
Je pense que c'est beaucoup ça, mais quand tu arrives avec Nadeau Dubois, qui est plutôt un pragmatique, qui comprend le jeu politique et tout ça, ben là, il y a une espèce de collision. Puis si tu restes naïf, candide, t'es pas prêt à faire aucun compromis sur tes idéaux, sur les façons de faire. Moi, je pense que tu prendras jamais le pouvoir. Nadeau Dubois a compris ça. Là. Alors, s'il veut faire progresser dans les sondages intention de vote de son parti, il faut être un petit peu plus terre à terre que ça.
Peut-être que Manon Massé savait, parce que c'était elle, l'ancienne co-porte-parole, parce qu'elle avait encore le côté rêveur. Par contre, elle, la connaissance politique, la joute, elle la connaissait très bien. Puis je pense qu'elle elle-même, elle savait qu'elle devait jouer avec cette dualité-là, ce qui devait être beaucoup plus conciliable avec Gabriel Nadeau-Dubois.
Probablement. Puis Mme David, Françoise David, avant Manon Massé aussi, elle avait plus de bagages, peut-être une personnalité plus connue, plus forte,
plus prête au jeu, plus de poids.
Et peut-être plus pragmatique, plus réaliste aussi. Donc, un peu tout ça. Puis je pense que ça ajoute à ça le contexte aussi. Tu aperçois que Québec solidaire, on se souvient, il y a quelques années, leur rêve, c'était d'avaler, de faire disparaître le PQ et devenir le grand parti indépendantiste, le monopole de cette idée-là.
Ils refusaient
toute discussion ou fusion avec le PQ. Et là, ils sont en train de se faire dépasser en ce moment par le PQ. Donc, tu t'aperçois que Québec solidaire plafonne, ça en va probablement nulle part dans une prochaine élection. Alors, tu sais, tout ça aide pas à... Tu sais, si déjà, là, t'es fatigué, c'est pas si facile que ça, t'es loin de ça, t'sais, j'essaie de me mettre à la place de Mme Lessard. Je dis, pense l'ensemble de ça peut peut-être expliquer son départ un peu prématuré. Là, on dit, il n'y a pas de crise à Québec solidaire, mais en tout cas, moi, je pense que ça fait partie d'un peu de... Il va falloir qu'ils résolvent ce dilemme-là entre les pragmatiques et les rêveurs. Si tu n'es pas prêt à mettre jamais d'eau dans ton vin, bien, tu t'en... Ça peut plus fonctionner.
Puis, même qu'à une certaine époque, on voyait Québec solidaire comme allant devenir l'opposition officielle, peut-être même un parti qui pouvait aspirer au pouvoir. Maintenant, on ne l'a même plus dans le narratif.
Non, c'est plus
dans le narratif politique, on ne se tourne plus vers Québec solidaire. Ils ne trouvent plus le moyen de faire rêver, de faire jaser, de se positionner. C'est... On dirait à une certaine époque le Parti vert, peut-être. Il y a cette espèce de parti qui, à un moment donné, est donc
bien
in.
Les conquis de la gauche, Québec solidaire, puis les conquis de la droite avec le Parti conservateur d'Éric Duhaime, puis tu gagnes pas personne ni d'un bord ni de l'autre.
C'est sûr que la place pour le rêve, tu poses la question en ce moment... Là, les gens, là, ils peinent à boucler les budgets, dans certains cas, à trouver du logement, tout ça. Là.
La base t'sais, est tough.
T'es, ton besoin, ils sont plus pragmatiques puis plus terre à terre que
ça. Justement, tu sais, la classe moyenne est tellement plus proche du bas que du haut que Québec solidaire aurait eu une opportunité en or d'aller les chercher puis d'essayer de leur faire miroiter mieux, puis ils ne sont même pas capables d'aller chercher ça.
Peut-être ma dernière petite remarque là-dessus, c'est que le départ de... fait un peu de bruit, son départ de Québec solidaire, mais ça me paraît très différent de celui de Catherine Dorion, où on sentait que Catherine Dorion, c'était plus était centrée sur elle-même,
ça, c'est vrai.
Sur son intérêt personnel. C'est sûr, dans le départ de Mme Lessard, il y a une critique de son parti, mais c'est pas une abdication ou un renoncement à la vie politique ou au modèle politique et démocratique. Donc, dans ce sens-là, je trouve que les départs sont un peu différents.
Je nous ai gardé le dessert pour la fin, François. On est reparti. La langue française est en péril. Des fois, après le bonjour, on rajoute un « aïe », puis on est obligé d'avoir peur. À Stoneham, il n'y a même plus moyen de commander un croissant sans se faire répondre par un français convenable. Faut-tu avoir peur pour la langue française ou on capote peut-être un peu avec pas grand-chose, d'après toi?
Je pense que le danger immédiat, on le sent moins à Québec qu'à Montréal. Je pense que c'est une évidence. Mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs... au Canada, le poids du français décroît. Bon, est-ce qu'on dit que ce n'est pas grave, le français, c'est juste un outil de communication, ou au contraire, on sent que ça fait partie de notre identité, puis auquel cas, bien, je pense qu'on a raison de s'en inquiéter, de s'en préoccuper. Ce n'est pas isolément le « aïe » d'un commerçant qui met en péril le français, on s'entend, mais c'est la somme de tout ça. Le gouvernement s'attaque, le gouvernement de la CAQ s'attaque. Il n'est pas le premier à le faire. Depuis les années 60, qu'on a commencé à légiférer pour protéger la langue. Ça a commencé sous Daniel Johnson, Robert Bourassa, puis le PQ ensuite avec la loi 101, puis ça se perpétue. Puis on fait toujours le même... Il y a un grand constat qui revient à travers les époques. C'est une des clés pour assurer la survie du français, si on pense que c'est important de le faire, c'est de mieux contrôler l'arrivée. l'arrivée de, par l'immigration. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, mais moi, je pense que le consensus est assez large là-dessus. Mieux sélectionner, probablement, poser comme condition d'arriver une connaissance du français ou sinon accompagner mieux les gens qui arrivent, de meilleure formation, de meilleur suivi, etc. Puis pas juste par un cours. Moi, je suis allé des fois dans des cours de francisation pour voir comment ça se passe. Mm-hmm. Puis, oui, c'est, tout le monde est de bonne foi, mais c'est pas suffisant. Donc, travailler auprès des immigrants, je pense que c'est un incontournable. Il y a la moitié du budget annoncé hier là, qui va aller à ça. Je trouve l'autre élément qui est plus inquiétant, puis j'allais dire, c'est pas mal plus difficile de s'attaquer à ça, je pense que le français ne survivra pas s'il n'y a pas collectivement un meilleur sentiment que c'est important d'assurer la survie de la langue. Et ça, comment on agit là-dessus, c'est pas évident. T'sais, c'est pas grave d'écouter une tune en français. Je le fais aussi, un mot en anglais ici et là, mais ouais. le sentiment que c'est pas grave de ne pas parler français.
C'est drôle, hein, parce que la semaine passée, on a reçu en studio un artiste qui vend beaucoup d'albums, qui est indépendantiste, puis qui utilise beaucoup le franglais. Corias est venu s'asseoir en studio. Ouais. Puis tu sais, on jasait de ça, puis lui disait, dis-moi, j'y crois à notre langue, puis j'y crois au Québec souverain, puis ainsi de suite. Il dit, mais en même temps, il dit, moi, je parle aux gens de la rue. Fait qu'il faut que j'utilise le langage que j'entends autour de moi. Fait que moi, le français, je l'ai à cœur, mais mon français à moi, il y a des mots en anglais dedans, il y a des expressions en anglais, puis... Je pense qu'il a raison sur le fond. T'sais, le français évolue puis va chercher des influences ailleurs, comme l'anglais est allé
Absolument.
Chercher de l'influence
les langues,
dans d'autres
langues. Les langues sont vivantes. C'est pas d'hier que le français intègre des mots anglais qui sont francisés. Donc, c'est pas... C'est ça, on veut pas qu'une langue soit figée puis meure parce que plus personne la parle. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est quand des conversations de jeunes, tu sais, sur les réseaux sociaux notamment, où, tu sais, il y a une espèce de message général qui a été perçu que c'est en anglais que ça se passe, il faut échanger en anglais. Quand des francophones, dans des conversations privées, échangent entre eux, c'est pas grave, c'est bien même que tout le monde puisse aussi parler anglais, mais si tranquillement on perd le sens de l'importance de cette langue-là, moi, je pense que la langue va se perdre au fil des générations. T'sais.
Puis en même temps, on nombre...
Moins vite à Québec qu'ailleurs, mais...
En même temps, au nombre de YouTubeurs français que nos jeunes écoutent, là, tu peux te réconforter là-dessus. Ouais. J'apprends encore plein de mots français que je connais pas, comme la flemme et Kouakoubé. Mais bon...
Mais on peut pas légiférer là-dessus, hein, sur la langue des communications privées, des conversations privées. Donc,
ben non.
Il faut y aller quoi? Par l'exemple, la publicité? Est-ce que les artistes ont un rôle à jouer là-dedans? Les médias ont un rôle à jouer, même si les médias traditionnels ont l'impression qu'on est de moins en moins pesant influent dans la vie des plus jeunes générations.
Tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, la solution est d'en fierté à quelque part. Si t'es fier de ta région, tu vas bien la représenter au sens politique. Si t'es fier de ta langue, parce que tu regardes le top 15 canadien, puis c'est juste des tunes, des cow-boys fringants, puis Taylor Swift, tu vas être fier de faire partie de cette langue-là, puis de vouloir la... On a vécu, en tout cas, ma génération, François, vis-à-vis Québec, on a vécu un sentiment à un moment donné où on est devenu fiers de vivre à Québec. Le 400e a fait ça. Le changement du festival d'été, le projet, là, on n'est plus sûr, mais quand on bâtissait l'aréna, on était bien fiers. OK, là...
J'aime encore aller voir des shows là-bas. Je trouve ça beau ce qu'ils ont fait là-bas, c'est le fun.
Oui, on est bien contents pour Salt Lake City. Puis tout, rétroactivement, okay, on est plus sûr. Mais on a connu cette poussée-là par en avant, mais on dirait que c'est en train de se dissiper autour de nous autres quand même. Puis ça, c'est dommage. Hey, merci François.
Hey, c'est un plaisir.
Reviens jaser quand tu veux. Hein? Quand on aime, on a toujours 20 ans, tu le sais. Hein?
Non!
Ben, je vous aime plus que trois fois alors.
Oh, ouais, t'as mal, c'est bien dit. 16h13, notre ami François Bourque pour jaser de ce qui retient l'attention, évidemment, dans l'actualité. Vous en pensez quoi, vous autres? 418-971-1021. Courte pause, on revient.